Seigneur vous bénisse. Nous allons prier. Père béni, qui es aux cieux, te remercions de la grâce que tu nous fais ce soir de nous rassembler autour de ta parole. Lorsque tu fais quelque chose, ce que tu fais n'est jamais vain, a toujours un bénéfice. Aussi, nous t'en sommes reconnaissants. Nous nous attendons à toi ce soir. Dans la suite de ce qui se passera ici, tes enfants t'ont adoré, tes enfants t'ont parlé, tes enfants t'ont loué. Maintenant, ô Dieu, puisses-tu leur parler, qu'ils puissent t'écouter et que chacun, lorsqu'il rentrera, qu'il puisse rentrer étant édifié de par toi. Inspire-nous ta parole et accorde-nous de pouvoir écouter comme écoutent les disciples. Nous te demandons pardon pour nos péchés, que rien ne vienne déranger ce rassemblement, que rien ne te mette mal à l'aise au milieu de nous. Tout ce que nous faisons que tu ne tolères pas, te demandons pardon. Veuille-nous absoudre, faute, et que nous puissions encore bénéficier de ta grâce. Te demandons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. En toute chose, je voudrais vous présenter mes excuses. Je me suis planté pendant ces deux dernières semaines. Je ne sais pas pourquoi, quand je dis qu'on va avancer l'heure, je ne sais pas pourquoi je vous dis que vous allez dormir une heure de plus. Ce qui s'appelle se planter. C'est la faute de Marie-Élise, de Bérénice et tout ça. Voilà. Mais vous avez compris, vous dormirez une heure de moins. Mais, le culte, c'est quand même l'après-midi. Ça va? Ce sera à 16h. On commencera à 16h. C'est l'ancien 15h. Maintenant, je me pose la question, est-ce que prend l'heure des hommes ou bien gardons, est-ce que nous gardons l'heure de Dieu, l'heure naturelle? Bon, on va pas chipoter sur une heure. Ah, Bérénice vient d'arriver, donc elle sait que c'est aussi de sa faute. Ah, ouais. Voilà. Donc, nous dormirons une heure de moins. Mais, allez, on va faire ça comme ça. On prendra le pour qu'il n'y ait pas de confusion. Hein? On prendra l'heure d'été qui nous sera donnée. Ça va? Le monde donne cette heure d'été juste dans le but de passer une heure de plus sur les terrasses. C'est pour ça qu'ils aiment l'heure d'été. Ils disent que sur les terrasses, quand ils sont dans les terrasses en train de prendre leur verre ou leur café, que sais-je, ça leur permet de rester plus longtemps à la terrasse en plein jour. Je ne vois pas ce qui les empêche de le faire quand il fait un peu plus sombre avec leur lampe allumée. Cela, vous savez, l'hiver ne désemplit pas les terrasses. Les terrasses sont toujours là, ils savent comment les chauffer. Et ils ont cette heure-là en hiver, donc moi je ne les comprends pas. Bon, c'est comme ça la société. Dieu a son heure. Et bon, comme c'est la seule que nous avons comme repère, nous allons nous y référer. Donc le culte commencera à 16h. Ça va? Encore une fois, pardonnez-moi. Seigneur vous bénisse. On ne sait plus calculer. Depuis qu'on laisse Frère Benoît calculer pour nous, on oublie de calculer. Voilà. Ce soir, nous lirons dans Exode chapitre 17, un passage que nous connaissons bien. Les six premiers versets. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées. Et ils campèrent à Réphidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, donnez-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit, pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait, pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour nous faire mourir de soif, moi, mes enfants et mes troupeaux? Moïse cria à l'Éternel en disant, que ferai-je à ce peuple? Encore un peu, et ils me lapideront. L'Éternel dit à Moïse, « Passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau. Et le peuple boira. » Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. En lisant ceci, nous conviendrons certainement qu'obéir à la parole de Dieu, ce n'est pas simple. Ce n'est pas quelque chose de trivial, de direct qui vient. Vous dites à Dieu que vous avez soif et pour toute réponse, Dieu vous dit « frappez le rocher ». Ce n'est pas simple. Oui, ça semble... Ça ne semble pas être la bonne réponse, mais la parole de Dieu vous dit que le rocher soit frappé. Et si je frappe le rocher, qu'est-ce qui va se passer? Il en sortira de l'eau. Que l'eau sorte du rocher. Après que l'on vous ait appris beaucoup de choses. À l'école, on vous a appris beaucoup de choses dans la vie. On vous dit, frappez le rocher et il en sortira de l'eau. Ce n'est pas simple de croire en cela. Tu intituleras cela, Fabrice, tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau. Et l'eau qui en sort, ce n'est pas un filet d'eau. Il sort de l'eau en abondance. Dans une autre occasion, ils vont encore être pressés par la soif. Le rocher, il ne s'agira plus de le frapper, mais de lui parler. L'eau qui sort de ce même rocher, n'est-ce pas? Il nous est dit, c'est de l'eau en abondance. Nombre 20. Verset 10. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit, « Écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau ?» Puis Moïse leva la main et frappa deux fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. En abondance. L'assemblée but. Et le bétail aussi. Ce qui signifie que l'eau qui en est sortie, il y en avait pour tout le monde. Pour l'assemblée, pour le bétail. Il y en avait pour tout le monde. Personne n'en a manqué. Vous savez, dans le désert, ils ont pu expérimenter beaucoup de choses. Ils ont vu qu'ils ne pouvaient pas compter sur leur gourde. Quand Moïse leur a dit, l'Éternel m'a dit que l'on prenne le chemin du désert, n'est-ce pas ? Et pour arriver au pays où coule le lait et le miel, eh bien, ils ont peut-être amené leur gourde parce qu'il y a un désert à traverser. Finalement, les gourdes se sont vidées. Amen. Elles étaient à sec. Ils sont allés d'une mare à l'autre. Des eaux de Mara à d'autres eaux, à Meriba. Ils y sont allés, mais ils ont toujours manqué d'eau. Ils étaient pressés par la soif. Ils cherchaient à boire. Ils allaient, comme dit le frère, d'un réservoir à gauche, d'un étang vers un autre. Tout était à sec. Ils pouvaient aller chercher ailleurs. C'était à sec. Il n'y avait pas d'eau. Jusqu'à ce qu'ils perdent l'espoir de trouver un jour de l'eau. Oui, l'eau que nous négligeons souvent, elle a son importance dans la vie. Nous ne pouvons pas nous permettre de vivre sans eau. Quand on en a les moyens, pour pouvoir s'acheter telle canette de telle autre boisson modifiée, on ne pense pas, on a vite l'impression, n'est-ce pas, de mépriser l'eau. On a vite cette tendance-là. À la maison, parce que parfois, quand je suis dehors, je reçois des SMS. Quand tu reviens, amène-nous quelque chose à boire. Mais il y a de l'eau à la maison. Il y a de l'eau. Comme si l'eau n'était pas à boire. Et c'est à l'endroit le plus invraisemblable, dit le frère. De tout le désert, c'est là qu'ils ont trouvé de l'eau, dans un rocher. Un rocher sec au milieu d'un désert. Ouais. De ce rocher, l'eau est sortie. Mais Paul nous dit que ce rocher était quelqu'un. Ce n'était pas une chose, quelque chose comme ça, non. C'était quelqu'un. Et ce rocher n'était pas immobile. Donc, quand ils se sont retrouvés dans Exode 17, à cet endroit-là, on s'appelle encore. À Refidim, n'est-ce pas? À Refidim, le rocher a donné de l'eau. Le même rocher les a suivis. Ils arrivent dans Nombre 20, ils arrivent à Meriba. Et là, il manque encore de l'eau. Et le rocher qui leur a donné de l'eau à Refidim était toujours avec eux. Alors, puisque ce rocher qui nous a donné de l'eau est toujours avec nous, de quoi aurions-nous encore crainte, sachant que le rocher qui donne de l'eau est toujours là? Si le rocher avait disparu, c'est vrai, il y aurait eu de quoi paniquer. Mais ce rocher était toujours là. Et il était à pleine vue des enfants d'Israël. Et Paul dit, ce rocher, c'était quelqu'un, 1 Corinthiens chapitre 10. « ils ont fait une première expérience à Réphidim. Maintenant, ils vont d'expérience en expérience. Ils arrivent à Mériba. Ils oublient la première expérience. 1 Corinthiens chapitre 10. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, tous, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Je vous regarde tous ici ce soir. Êtes-vous baptisés? Vous êtes tous baptisés, des plus jeunes aux plus âgés. Que je suis peut-être ce soir ici. Ah non, il y a encore frère Bernard qui me bat. Oui. Donc, quelque part, ils ont tous eu leur baptême. Ils ont tous eu leur expérience. Moi, je ne me suis pas fait baptiser parce que vous vous êtes fait baptiser. Vous ne vous êtes pas fait baptiser parce que moi, je me suis fait baptiser. Vous avez expérimenté qu'il y a quelqu'un de surnaturel, qu'il y a un vrai Dieu qui vous demande quelque chose. Vous avez été convaincu, vous lui avez demandé un signe, que sais-je, pour que vous puissiez entrer dans les eaux du baptême. Ce signe a été accompli et il vous a dit qu'il est avec vous jusqu'au bout, du début à la fin, jusqu'à la fin du monde. Alors, si vous y croyez, où est votre problème? Quand les problèmes arrivent, vous devez savoir que celui-là, celui qui règle les problèmes, est toujours là. Nous ne sommes pas là, nous ne sommes pas attachés à une église, à une assemblée. Le prophète de cet âge a dit, comme de la même manière qu'Élisée suivait Élie, n'est-ce pas? Élie, il allait à tel endroit, Élisée le suivait. Élie lui disait, écoute, reste ici parce que moi je dois aller à tel endroit. Élisée lui répondait toujours, l'Éternel est vivant, je ne te lâcherai pas. Il le suivait. Alors, frère Abraham dit, s'il va à Jeffersonville, je le suivrai à Jeffersonville. Dites amen à ça. Il a fait bâtir un beau tabernacle qui portait même son nom. Branham Tabernacle. Et il dit, s'il entre dans le Branham Tabernacle, j'entrerai avec lui. Il a beau s'appeler Branham Tabernacle. S'il sort du Branham Tabernacle, je sors avec lui. Dites amen à ça. Amen. Mes parents m'ont baptisé. J'avais 3 mois, ils m'ont baptisé chez les catholiques. Quand j'ai grandi, lorsqu'on m'a prêché cette parole, j'ai constaté qu'il n'est pas chez les catholiques. J'ai dit, bon, il est peut-être chez les protestants. J'ai regardé, il n'est pas chez les protestants. J'ai regardé, il est peut-être chez les pentecôtistes. Chez les pentecôtistes, il n'y est pas. Dites amen à ça. J'ai regardé, il est peut-être chez les branhamistes. Chez les branhamistes, il n'y est pas. Il est où? Il est dans sa parole. Ce qui signifie, si la parole sort de cet endroit, je sors également. J'entre tant que la parole y est. Si j'arrive ici et qu'on commence à me raconter des salades, ou que moi-même, Paul dit, quand nous-mêmes, nous disons autre chose que ce qui a été prêché, que nous, ou même un ange du ciel, qu'il soit anathème. Tant que c'est la parole, j'entrerai ici. Ce n'est pas pour la beauté de l'endroit. D'ailleurs, l'endroit, il ne paye pas de mine. Il n'est pas si beau que ça. Hein? C'est ici que vous vous rassemblez. Eh oui, c'est ici que nous nous rassemblons. L'endroit, c'est pas grand-chose. Mais la parole qui en sort, c'est ça qui m'intéresse. Amen. C'est cette parole qui me fait bondir. Ce n'est pas l'endroit qui me fait bondir. Quand j'entre ici, ce n'est pas l'endroit qui me fait bondir. C'est quand je lis cette parole. C'est quand je la lis, quand je la serre contre moi, Ça, ça me fait bondir. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Yes. Ah, si je dois bondir chez les catholiques, c'est qu'on prêche la parole ici chez les catholiques. Mais les catholiques n'en veulent pas. Ils veulent la parole du pape. La parole du pape ne me fait pas bondir. Yes. Oh, j'aime ça. Non, ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Et ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Et Christ est la parole. Tant que la parole est apportée ici, la parole, c'est le rocher qui vous suit. Parce que vous savez, la parole de Dieu, elle est inspirée si ses enfants sont là. S'il n'y a pas, d'enfants de Dieu, je vais vous raconter des carabistouilles. Ça peut paraître près de la parole, mais ce n'est pas la parole. Dieu révèle sa parole à Jacob. C'est ce que la Bible dit. Il ne révèle pas sa parole à d'autres personnes. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et si Dieu m'inspire sa parole, c'est parce qu'il y a ses enfants. Ce n'est pas parce que moi, frère François, je suis privilégié. Dieu ne fait pas d'exception de personne. Il ne fait pas exception de personne. Si c'est la parole qui est, si c'est inspiré, ce n'est pas que grâce à moi, non. Je suis un serviteur inutile. C'est vous. C'est vous. Le jour où toute l'assemblée décide de ne pas venir et que moi je dis je vais venir, eh bien ce jour-là, je vais blablater ici. Je n'aurai rien. Ce que je peux recevoir, ce sera peut-être pour moi. Oui, mais si jamais je reçois quelque chose. Mais si il n'y a personne qui peut recevoir quoi que ce soit ici, je n'ai pas d'inspiration. Dieu ne se trompe pas. Dieu sait qui a besoin de quoi. Et ce rocher était Christ. Ce rocher les suivait partout. On peut continuer la suite, mais la plupart d'entre eux n'étaient pas agréables. Mais ce n'est pas de ça que nous allons parler. Maintenant, parce qu'il manquait d'eau, le peuple a murmuré contre Moïse. Où est le problème de Moïse là-dedans? Moïse n'est jamais parti leur dire, écoutez, je vais vous sortir de l'Égypte, je vais vous amener dans un pays où coule le miel. Non. Moïse est parti leur dire, le Dieu d'Abraham, le Dieu de... Écoutez, voilà, Exode chapitre 3. C'est ce que Moïse est allé leur dire. Verset 2. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Tout à l'heure dans l'après-midi, je suis tombé, je n'ai plus retrouvé la brochure. Je suis retrouvé sur une phrase, je dis tiens, ça c'est un, je vais, ça m'a accroché un peu. Où il dit que l'évangile qui est apporté, l'évangile est attirant. Il est attirant pour ceux à qui il est destiné. Et, il dit, si ça ne vous intéresse pas, l'évangile ne vous attirera pas. Et il dit, Dieu a un moyen d'attirer les gens à lui. Ça m'a amené à Jean 6 où Jésus dit, c'est mon Père qui vous attire, qui vous a attiré. Vous n'êtes pas venu de vous-même. C'est lui qui attire. Et Dieu sait comment attirer les gens. On y arrivera. Donc, Ici, Dieu fait, il allume un feu dans un buisson. Il sait que ça va attirer Moïse. Il sait que ça va attirer Moïse. Moïse regarda, il n'a fait que regarder. Et voici, le buisson était tout en feu. Et le buisson ne se consumait point. Ah, c'est quel genre de feu ça? Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision. C'est une grande vision. Si je vais en Égypte raconter ça, personne ne me croira. Un feu dans un buisson et le buisson ne se consume pas. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Où est le rapport? C'est une terre sainte. Ne posez pas trop de questions. Quand Dieu vous parle, ne posez pas trop de questions. Dieu lui dit, c'est une terre sainte, point. Et il ajouta, et Frère Branham dit, s'il avait voulu enlever son chapeau qui le protégeait du soleil, Dieu lui a dit, ses souliers, pas le chapeau. Parce qu'en signe de politesse, quelqu'un qui a un chapeau sur la tête, lorsqu'il vient vous dire bonjour, il enlève son chapeau et il vous tend la main. Mais non, ici, il vient adorer Dieu, il peut avoir les réflexes d'enlever le chapeau. Non, Dieu lui dit, ce sont tes souliers. Amen. J'aime ça. N'approche pas, ce sont les souliers. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance, tout ça, ça va. On va lire verset 9. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Quand vous dites Dieu ne nous entend pas, Dieu entend. Et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon? D'abord, qui va me faire entrer? Je devrais demander une audience. Dieu dit, c'est moi qui t'envoie. Dieu vous envoie aujourd'hui chez Philippe ici. Vous n'avez pas besoin de signer une audience. Dieu va dire à Philippe, reçois-le. Et Philippe va vous recevoir. Et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël, Dieu dit, je serai avec toi. Ça doit être suffisant. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dis, voilà ce que Moïse leur a dit, c'est ce que je voulais dire. Le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Ça va? C'est ce que Moïse est allé leur dire. Maintenant, ils ont soif, ils s'en prennent à Moïse. Oui. Moïse leur dit, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Alors, ils ont murmuré contre Moïse. Ils ont cherché querelle à Moïse. Ils ont tenté Dieu. Vous pouvez lire ça dans Exode 17 qu'on vient de lire. Avec tout ça, le peuple méritait quoi? D'être frappé. Le peuple méritait que Dieu les frappe. Mais Dieu donne l'ordre à Moïse, non pas de frapper le peuple, Dieu donne à Moïse l'ordre de frapper le rocher. C'est Ésaïe 53, 5. D'abord, verset premier, qui a cru ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Verset 5, mais il était blessé pour nos péchés, pour avoir tenté Dieu. Il a été brisé pour nos iniquités, parce que nous sommes nés dans l'iniquité. Le châtiment, le fait d'être frappé, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, sur le rocher. Normalement, c'est le peuple qui devait être frappé. Mais le châtiment en question est tombé sur le rocher. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. C'est au passé, hein. C'est déjà fait. C'est déjà arrivé. Et le rocher a donné de l'eau en abondance. De l'eau qui a fait de sorte qu'ils ne meurent pas de soif. Ils ont eu cette eau-là. L'eau pure, l'eau fraîche et propre en abondance. Et il y en a eu pour tout le monde.
Amen.
Dites amen à ça. Jamais Dieu ne dit à Moïse, quand le rocher va donner de l'eau, que celui qui n'a pas péché aille boire. Dieu dit, il y en a pour tout le monde.
Amen.
Il y a un abominable là dans le peuple. Dieu dit, il y a de l'eau du rocher pour l'abominable.
Amen.
Dites amen à ça.
Amen.
Il y a un fumeur là dans le peuple. Dieu dit, il y a de l'eau en abondance. Le fumeur peut aller boire de l'eau. Ça va? On se tient? Tous ceux qui ont soif peuvent boire cette eau-là. J'ai lu tout à l'heure au frère, il m'a appelé. Je vais vous le lire aussi. J'ai justement ce texte-là devant moi. J'ai pris cette brochure tout à l'heure par hasard. Enfin, par hasard, il n'y a pas de hasard avec Dieu. Les citernes crevassées. Je lui ai lu, frère, pardonne-moi, toi, tu vas écouter ça une deuxième fois. Verset 91. Un verset paragraphe. Je suis en train de regarder un homme qui est assis au fond de la salle. L'homme était où ? Dans la salle. Dans la salle ici. Je me rappelle lui avoir dit ça un jour, dans une vieille étable un jour, près d'une mangeoire. Et il a dit, mais je ne suis pas bon. J'ai dit, je sais que vous ne l'êtes pas. Vous n'êtes pas bon. Et j'ai dit, frère Branham dit, et j'ai dit, moi non plus. D'ailleurs. Mais j'ai dit, toi, tu regardes à ce que tu es. Arrête de regarder à ce que tu es. Regarde à ce qu'il est, lui. Il a dit, ah, frère Branham, si je pouvais seulement me débarrasser de ces cigarettes, frère Branham, je deviendrais un chrétien. J'ai dit, tes cigarettes, ne t'en débarrasse pas. Si quelqu'un veut lire, hein. Il lui dit, ne t'en débarrasse pas. Paragraphe 93. Tu essayes de devenir bon pour ensuite venir à lui. Jésus n'est pas du tout venu sauver des hommes bons. Il est venu sauver des hommes mauvais. Qui savaient, mais non, des hommes mauvais, pas tout ça, mais qui savent qu'ils sont mauvais. Des hommes mauvais qui savaient qu'ils étaient mauvais. Il a dit, eh bien, j'ai dit, écoute, tu ne veux pas aller en enfer. Ouais, quand je vous dis cette histoire, n'envoyez pas en enfer les gens n'importe comment. C'est Dieu qui s'en charge. Écoute, tu ne veux pas aller en enfer, n'est-ce pas? Il a dit non, il ne veut pas aller en enfer. J'ai dit, eh bien, tu n'es pas obligé d'y aller. Tu n'es pas obligé d'aller en enfer. Il est mort pour que tu ne sois pas obligé d'aller en enfer. Il a dit, que dois-je faire? Le frère Branham lui dit, rien. Moi, je lui aurais dit, s'il m'avait demandé, frère François, que dois-je faire? Je lui aurais dit, arrête de fumer. C'est ce que je lui aurais dit. Vous voyez? Ben, le frère Abraham lui dit, tu n'as rien à faire, rien. S'il y a quelqu'un qui doute, je peux demander vos frères de venir lire hein, à ma place. Rien. C'est aussi simple que ça. Il a dit, oh, mais si je pouvais jamais, j'ai dit, te voilà reparti avec ta cigarette. Arrête de penser à la cigarette. Souviens-toi de ceci. Hein. Pense à lui, à ce qu'il a fait, à ce qu'il est. Pas à ce que tu es. Tu n'es pas bon. Tu ne l'as jamais été et tu ne le seras jamais. Mais ce que lui est, c'est lui qui compte. Et j'ai dit, alors, la seule et unique chose que tu as à faire, c'est Frère Branham qui lui parle, s'il a pris ta place là-bas, tu n'as qu'à accepter spontanément ce qu'il a fait. Tout ce que tu as à faire, c'est l'accepter. C'est tout. Eh bien, a-t-il dit, c'est simple. Je vais le faire. Enfin, voilà la chose à faire. Regardez à ce qu'il est. Paul dit, courez dans la carrière ouverte, ayant les regards fixés sur Jésus. Regardez à ce qu'il est. Ne regardez pas à ce que vous, vous êtes. Ne regardez pas votre mal de jambe. Regardez à Jésus-Christ, à la parole. Et quand la parole vous dit, par ses meurtrissures, vous êtes guéri, si c'est à lui que vous regardez, pendant que votre jambe essaie de vous dire, tu as mal ici, tant que vous regardez à lui, vous allez courir comme un lapin. Amen. Mais tant que vous regarderez à votre jambe, frère, courons. Il y a le tram qui va passer, courons. Ah frère, j'ai mal. Eh bien, tu vas le rater ton tram. Amen. Mais regarde à Jésus. Et quand tu vas entrer dans le tram, tu vas te dire, tiens, comment est-ce que je suis arrivé dans le tram? Et parfois, on est tellement oublié, on dit, ah, chance, hein, c'est vraiment, ce chauffeur-là, il est bien. Le Wattman, là, le chauffeur ou Wattman, je ne sais pas comment vous l'appelez, il n'est pas bon du tout. Celui qui est bon, qui a fait que vous attrapiez le tram, hein, c'est Dieu. Entrez dans le tram, rendez gloire à Dieu. Dites, ah, merci Seigneur de m'avoir permis d'avoir le tram. Moi, je suis souvent là, on me dit, frère François, mais tu fais quand même un peu de sport, cours un peu. Frère, tu sais, la dernière fois que j'essaie de courir, c'est ce qui m'est arrivé. Je ne sais pas vous expliquer comment c'est arrivé. J'ai à peine fait 100 mètres de chez moi, je me suis retrouvé par terre. Je ne sais pas comment, je n'ai trébuché nulle part. J'ai senti mes jambes se dérober sous moi. Mais quand je me suis levé, là, j'ai eu mal aux genoux. Mais au moment où je suis tombé, je n'ai rien ressenti. J'ai regardé, j'ai dit, heureusement que je n'ai fait que 100 mètres. Tellement j'avais mal aux genoux. Je n'ai fait que 100 mètres. Je suis retourné clopin-clopin chez moi. Depuis ce jour-là, je ne cours plus. Maintenant, quand quelqu'un me dit, frère, viens, on va courir. Moi, je dis, frère, la dernière fois que j'ai couru, je suis tombé. Je ne dois pas regarder à ça. Je dois regarder à lui. Par ses meurtrissures, je suis guéri. Si je regarde à lui, c'est sûr, je vais courir à nouveau. Ça m'est venu cet après-midi. J'ai dit, ah, c'est de ma faute si je suis tout le temps là à me plaindre. À murmurer, à dire toujours c'est moi, frère, je vais tomber. Effectivement, tant que je dis je vais tomber, je vais tomber. Je vais tomber. Ah, je dis ah bon. C'est ça la foi. Quand vous avez la foi, ne condamnez pas quelqu'un qui n'a pas la foi, comme vous. N'exigez jamais à ce que quelqu'un ait la foi comme vous. Prier pour que Dieu lui donne la foi, oui. Ce n'est pas parce que vous, vous avez vaincu telle chose que l'autre est obligé à vaincre aussi. Vous n'êtes pas les talons. Je ne suis pas les talons. Je veux venir vous raconter comment est-ce que j'ai arrêté de faire telle chose. Et alors, ça c'est moi. Peut-être que vous n'y arrivez pas. Et parce que vous n'y arrivez pas, comment ? Je vous envoie en enfer, vous irez en enfer à cause de ça. Ça ne va pas. Je ne veux pas exiger que vous ayez la même foi que moi. Je vais prier, Seigneur, donne-lui la foi. Tu m'as fait grâce, donne-lui la foi. Donc, il dit, je vais faire ce que tu me demandes, hein. C'est l'accepter, c'est tout. Alors, le frère Branham lui dit, j'ai dit, le ruisseau est ici. Vous voyez, je l'ai amené là et je l'ai baptisé au nom de Jésus-Christ. Il a été baptisé tout en étant fumeur. Amen. C'est là où moi je dis, hein, si un fumeur vient et me demande de le baptiser, je vais le baptiser. De quel droit refuserais-je de le baptiser? Je lui dis, frère, arrête d'abord ta cigarette et puis viens. Et puis viens, je vais te baptiser. Et puis le frère l'a baptisé. Vous savez ce qu'il va faire après? Il va lui acheter un paquet de cigarettes. Des gens de sa famille sont ici. Et je sais qu'ils avaient trouvé ça drôle que j'ai fait ça. Mais les gens trouvent ça drôle, hein? Frère Branham, frère François, il est drôle, hein? Mais je savais ce que je faisais. J'avais vu quelque chose d'authentique dans cet homme. Je pouvais voir que c'était là, alors je l'ai amené et je l'ai baptisé au nom du Seigneur Jésus. Et quand nous l'avons fait, peu de temps après, je suis allé chez son fils. Nous avons eu la vision d'un arbre qui s'était cassé à un certain endroit et l'homme était tombé et il s'était presque cassé la colonne vertébrale. On l'a transporté à l'hôpital. Et cette nuit-là, après que l'arbre soit tombé sur lui, le Seigneur m'a révélé que la cigarette s'était terminée. Alors, le Seigneur lui montre ça. Alors, le lendemain, il voulait des cigarettes. J'ai dit, c'est frère madame, hein, j'ai dit, je vais lui en acheter une cartouche. Pas une cigarette, une cartouche. Et je vais la lui apporter. Regardez bien et vous allez voir, les jours de la cigarette sont terminés pour lui. Il n'en a plus jamais fumé une seule depuis et n'en a plus jamais voulu une seule depuis. Oh Dieu, ça, c'est la parole. Ça, c'est la délivrance. Ah, gloire à Dieu. Donc, il y en a eu pour tout le monde. L'eau du rocher, il y en a pour tout le monde. Il y en a pour le fumeur. Il y en a pour l'abominable. Il y en a pour tous ceux qui avaient soif. Parce que je ne connais personne. Enfin, il y en a. Il y en a qui boivent de l'eau sans avoir soif. Mais généralement, quand on boit de l'eau, c'est parce qu'on a soif. Si vous buvez de l'eau alors que vous n'aviez pas soif, ben, vous buvez pour boire. Que vous soyez samaritain ou non. Oh, Jean 3, 16. Dieu a tellement aimé le monde. Il a tellement aimé le monde. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, fumeur, quiconque croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quiconque. Dans Nombre 21, Verset 6. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Vous savez pourquoi? Ils ont contesté. Ils mordirent le peuple des serpents brûlants. Et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché. C'est quoi ça? C'est la repentance. Nous regrettons. Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. Et alors qu'il méritait qu'il continue à être mordu par les serpents, Moïse a prié, le peuple était repentant, l'Éternel, le peuple reconnaît qu'il a péché, Moïse, l'Éternel, dont le peuple confesse son péché, l'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu, et si la personne a été mordue, ce n'est pas pour rien, elle a été mordue parce qu'elle a péché. Quiconque aura été mordu et le regardera, conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain, conservait la vie. Il y a eu une repentance. Même ceux qui ont parlé contre Dieu et contre Moïse, lisez le verset 4 à 5. Ils ont été guéris. Il a sauvé tous ceux qui ont accepté de boire l'eau du rocher. C'est pas moi qui dis, hein, qui parle, je lis. Il a sauvé tous ceux qui ont regardé le serpent d'airain. Maintenant, ici, c'est moi qui dis. Il a été élevé tellement haut, Jésus-Christ, que le monde entier aujourd'hui peut le voir. Parce qu'il a été élevé très haut. Il a été élevé dans les cieux. C'est pourquoi en Corée du Sud, ils ne peuvent pas dire aujourd'hui qu'eux, ils ne l'ont pas vu. Que c'est une affaire purement israélite ou israélienne. Non. C'est pourquoi l'Africain ne peut pas dire aujourd'hui que ce n'est pas notre affaire. Il a été élevé très haut. L'Africain, l'Australien, l'Américain, l'Israélite, tout ce que vous voulez, doivent le voir. Amen. Le monde entier sait qu'il y a Pâques. Amen. Même ceux qui disent qu'ils ne croient pas, mais ils savent qu'il y a une fête de Pâques. Amen. Maintenant, ceux qui le veulent, ils n'ont qu'à regarder. Et si vous regardez, il y a possibilité de le voir. Tournez les regards vers Jésus. Frère Abraham dit, quand vous regardez, vous voyez quoi ou qui? Si vous voyez, si vous le voyez dans la parole, c'est là que vous pouvez le voir. Si vous le voyez dans la parole, c'est que vous l'avez vu. C'est tout. Mais si vous voyez quelqu'un d'autre dans la parole, si vous voyez Frère Abraham, ça c'est votre problème. Il a été élevé très haut. Encore le temps. Hébreux 12. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi. Ce n'est pas le prédicateur qui suscite la foi, c'est Jésus. C'est Jésus qui suscite la foi, et ce n'est pas le prédicateur qui l'amène à la perfection, c'est encore lui qui l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Le rocher a donné de l'eau vive, pas de l'eau stagnante. Nous avons dit la semaine passée que l'eau vive est un type du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est une promesse. C'est une promesse pour qui ? pour tous ceux qui se repentent et qui se font baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est une promesse pour cela. Hommes, frères, que ferions-nous? Repentez-vous et soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ et vous aurez le don du Saint-Esprit. Il y en a pour tout le monde, en abondance de Saint-Esprit. Ah bon? Oui, la promesse, elle est pour vous. Il y en a pour tout le monde. Elle est pour vos enfants. Elle est pour tout le monde. Elle est pour tous ceux qui sont au loin. Combien? En aussi grand nombre que le Seigneur Dieu en appellera. C'est illimité. Cela dépend de l'appel de Dieu. Maintenant, comment est-ce que Dieu appelle? C'est aussi une bonne question. Aujourd'hui, comment est-ce que Dieu vous appelle? Oh, il y a peut-être d'autres moyens que vous pouvez trouver. Je ne dis pas que c'est exclusif, mais je vais vous donner ce qui m'a été donné à moi. Je vais vous dire ce qui m'a été donné en ce qui concerne l'appel. En aussi grand nombre que Seigneur Dieu appellera. Nous allons d'abord dans Jean 7. L'eau du rocher, c'est pour ceux qui ont soif. Dieu utilise la soif pour appeler les gens. Jean 7, verset 37. On a lu vendredi passé. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, quiconque, fumeur ou pas fumeur, ivrogne ou pas ivrogne, si vous avez soif, amen. Si quelqu'un, la condition, c'est de ne pas être ivrogne, c'est de ne pas être fumeur, la condition, c'est d'avoir soif. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. C'est un appel. Qu'il vienne à moi et qu'il boive. Donc, il vous donne soif. Et la femme samaritaine, elle avait soif. Le Seigneur lui dit, si tu connaissais celui qui te dit « donne-moi à boire », tu lui demanderais toi-même de l'eau et il t'aurait donné de l'eau vive. Une eau que tu boirais et après l'avoir bu, tu n'auras plus jamais soif. Elle dit « Seigneur, donne-moi de cette eau. C'est de cette eau-là que j'ai besoin. » Oui. Et quand vous aurez bu de cette eau-là, vous allez lâcher votre seau et vous allez partir. Vous n'avez plus soif. C'est fini. Vous avez de l'eau. Pourquoi vous n'avez plus soif? Vous-même, vous devenez, c'est lui qui le dit, vous devenez une source d'eau. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. C'est la soif vous permet d'expérimenter Dieu. Et c'est l'eau que Dieu donne en abondance, que le rocher donne, c'est de l'eau en abondance, abondamment d'eau. Psaume 78, on l'a déjà lu, on va encore le relire. Frère François, on l'a déjà lu, c'est pas grave, relisons-le. 78. Tout ça pour vous dire qu'il y a un Saint-Esprit pour quiconque qui a soif. Qu'il soit fumeur, qu'il soit ivrogne. Frère François, tu pousses les gens à boire. Je ne pousse personne à boire ni à fumer. Mais si vous êtes un ivrogne, si vous êtes un fumeur, si vous êtes un menteur, qui que vous soyez, un abominable, si vous avez soif, il y a de l'eau pour vous. Amen. Pas seulement le feu de l'enfer, il y a aussi de l'eau de la vie, de l'eau de vie pour vous. Si vous avez soif, allez-en, allez, buvez-en. Psaume 78, verset 15. Il fendit des rochers dans le désert et il donna à boire comme des flots abondants. Il y en a même pour le bétail. Vous vous rendez compte? Du rocher, il fit jaillir des sources et couler des eaux comme des fleuves. C'est de l'eau vive, c'est de l'eau qui coule. Ce n'est pas de l'eau qui stagne. Ça va? Il fallait qu'ils aient soif. Et il faut que vous ayez soif. Si vous avez soif, il vous appelle. Allez à lui. Psaume 105, verset 41. Il ouvrit le rocher et des eaux coulèrent. Elles se répandirent comme un fleuve dans les lieux arides. Il y en avait pour tout le monde. Même les contestataires, là. S'ils avaient soif, ils pouvaient boire. Dieu n'est pas rancunier. La rancune, elle n'est pas divine. Oh, je sais. Ça, c'est ma prière, que je vous apporte un Dieu de grâce. Ce n'est pas la grâce infinie, non. Vous n'êtes pas là libre de faire ce que vous voulez. Non, pas du tout. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Vous savez, quelqu'un qui n'a pas l'Esprit de Dieu, c'est Romains 8 qui dit ça. Il ne lui appartient pas. C'est Romains 8 qui dit ça. Mais le Dieu que nous prêchons, c'est un Dieu de grâce. Et c'est ainsi que nous essayons de le faire connaître quand il dit « Je suis Dieu miséricordieux, compatissant, dans la colère. » Il veut que nous le connaissions comme ça. Mais il ne veut pas non plus que nous le connaissions comme étant permissif. Parce qu'il dit après « Je punis l'iniquité. » Oui. Psaume 114, versets 7 à 8. « Tremble devant le Seigneur, ô terre, devant le Dieu de Jacob, qui change le rocher en étang, le roc en source d'eau. » Vous voyez, c'est lui qui fait ça. Et Jésus est le rocher qui donne toujours de l'eau, aujourd'hui encore. Le deuxième moyen que je connais, que moi je connais, il y en a peut-être d'autres, hein, il y en a d'autres, certainement. Comme le frère me parlait tout à l'heure au téléphone, les miracles que Dieu fait, oui, ça peut aussi vous attirer. Mais vous savez, Moïse dit, puisqu'on parlait de ces gens qui ressuscitent et puis qui donnent le témoignage, ok, mais Moïse dit, si quelqu'un vient, donc, d'entre les morts, va leur parler, ils ne croiront pas. C'est Abraham qui dit ça, c'est pas Moïse. Il dit, ils ne croiront pas. Quand bien même que la personne viendrait d'entre les morts, ils ne croiront pas. Ils diront, d'ailleurs, il était dans un coma profond. Ils vont expliquer ça comme ça. C'était une sorte de coma. Le médecin va donner l'explication, c'était un coma. Même s'il est mort 4 jours, il commençait à se décomposer, ils ne croiront pas. Mais c'est vrai, il y en a qui ont cru, parce qu'ils ont vu Lazare ressusciter d'entre les morts, ils en ont entendu parler, c'est possible. Mais ce n'est pas le moyen que Dieu a perpétué pour que nous puissions croire. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ne croient pas que Lazare est ressuscité, que Jésus a ressuscité Lazare. Il ne croit pas en ça. Le deuxième moyen, et nous terminerons par là, le deuxième moyen que je voulais vous donner ce soir, je ne dis pas que c'est le seul deuxième moyen, non, c'est quand vous êtes fatigué, quand vous êtes chargé. Chargé, c'est chargé de quoi? De péché. Quand on rend un témoignage à charge contre vous, c'est-à-dire on vous charge de mots que vous avez commis. Un témoignage à décharge, ça veut dire on vous décharge de ce qu'on vous accuse. Mais un témoignage à charge, ça veut dire ce que ça veut dire. Alors, si vous êtes chargé comme ça, Jésus vous appelle. Quand vous êtes fatigué, chargé, c'est Matthieu 11. Verset 27. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, c'est un appel. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est Dieu qui vous appelle. Dans Ésaïe 55, venez à moi et vous aurez, on va le lire, et nous terminons par là. Il faut avoir soif. Donc il y a la soif, il y a le fait d'être fatigué et chargé. Ésaïe 55, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Les eaux sont où ? C'est le rocher qui donne. C'est le Saint-Esprit qui est donné aujourd'hui. Venez aux eaux, le Saint-Esprit vous aidera. Le Saint-Esprit vous redonnera, vous donnera du repos. C'est, le frère Manam nous dit, c'est ça le repos du chrétien aujourd'hui, le Saint-Esprit. Venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne pourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas ? Écoutez-moi donc et vous mangerez ce qui est bon et votre âme se délectera de mes succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez, votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durables mes faveurs. Mes faveurs, n'est-ce pas, envers David. Que Dieu vous bénisse. Prions. Prions le Seigneur. Si vous avez soif, parlez au rocher. Il a déjà été frappé. Vous n'avez pas besoin de le frapper. Vous avez un besoin au-dedans de vous. Vous avez soif de quelque chose. Venez à ce rocher. Il vous donnera de l'eau en abondance. Pas seulement à vous, mais à tous les vôtres. Il vous donnera de l'eau en abondance. Prions. Père céleste, nous te remercions pour ta bonté. Ce rocher qui nous suit partout dans notre marche. Oh, il y a un cantique qui dit sur la montagne, allons sur la montagne, que le Saint-Esprit nous guidera. Le Saint-Esprit est là. Et tu le répands et il y en a pour tout le monde. Il y a Saint-Esprit qui est là. Il y en a pour le plus mauvais d'entre nous. Pour le moins bon d'entre nous. Ceux-là même que tu es venu sauver. Pour les contestataires, le Saint-Esprit nous rendra obéissants. Ce même Saint-Esprit nous est accordé ce soir. Et nous t'en remercions. C'est lui qui illumine notre sentier. C'est lui qui nous conduit dans toute la vérité de la parole. Et c'est une promesse de ta part. Tu as dit que celui qui se repentait et qui se faisait baptiser, cela lui était promis. Que la promesse est pour lui. Il y en a en abondance. La promesse est pour ses enfants. La promesse est pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que tu appelleras. Aussi vrai que tu appelles encore ce soir, cette promesse reste valable. Et nous te remercions. Béni sois-tu, Seigneur. Accompagne tes enfants alors qu'ils vont rentrer. Tu leur as montré où ils peuvent aller boire de cette eau, comme disait la Samaritaine. Seigneur, donne-moi de cette eau. C'est cette eau que tu as promise que tu puisses la donner à chacun d'entre nous, à tous ceux qui ont soif ici présents, afin que il n'est plus jamais soif. Nous te remercions déjà pour l'accomplissement de cette promesse. Nous prions de bénir notre retour. Merci de nous avoir permis d'arriver jusqu'ici, d'avoir béni notre arrivée, notre venue. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous t'avons prié. Te remettant aussi réunion de dimanche, la sainte scène que nous aurons à prendre. Nous voulons te remercier dans le précieux nom de Jésus-Christ, ton Fils. Nous t'avons prié. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Nous avons les salutations de la part de Maman Godet. Que Dieu vous bénisse.